Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde. 9e épisode, Matrix des Wachowski. Avec Laurent Aknin et Erwan Desbois.
Oui.
Est-ce que tout est en place?
C'est pas toi qui es censé me relever?
Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes.
Il te plaît, pas vrai? Ça te plaît de l'espionner?
Ne sois pas ridicule.
On va le descendre, t'es au courant?
Morpheus croit que c'est l'élu.
Et toi?
Peu importe ce que je crois.
Tu en doutes, non?
Tu as entendu?
Quoi?
Tu es sûr que la ligne est protégée?
Bien sûr, j'en suis sûr.
Il faut que je raccroche.
Le logo de la Warner en vert, tramé façon écran d'ordinateur vintage, une pluie de codes de la même couleur et des voix paranoïaques sur fond de modem tout aussi vintage, avant la traque par la police d'une femme, tout de noir vêtue, dont on ne sait pas encore qu'elle s'appelle Trinity. C'est le tout début en 1999 de Matrix. Il est signé, comme beaucoup de films de l'histoire du cinéma depuis ses origines, de deux frères dont on ne sait pas encore qu'en fait ce sont deux sœurs, puisqu'elles ont depuis toutes deux achevé leur transition et que nous les appellerons donc elles pendant toute cette émission. Erwan Desbois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé il y a 3 ans, avant donc la sortie de l'ultime épisode à ce jour de ce qui est maintenant une tétralogie, Matrix Résurrection, un essai sur elles, Lily et Lana Wachowski, la grande émancipation. Qui sont les Wachowski quand ils entreprennent Matrix, Erwan Desbois?
Alors bah, elles sont pas grand monde, elles sont des deux inconnues qui ont simplement réalisé un film et qui en ont écrit un autre qu'elles ont renié quasi immédiatement. Donc le film qu'elles ont écrit s'appelle Assassin, qui a été réalisé par Richard Donner, et donc dont le scénario a été tellement massacré à leurs yeux qu'elles ont essayé de se faire retirer du générique, qui ne leur a pas été autorisé. À ce moment-là, elles ont pris la décision qu'elles allaient réaliser tous leurs films, qu'elles n'allaient plus jamais laisser quelqu'un d'autre saccager leur travail. Et ensuite, donc, elles ont eu la chance à ce moment-là d'avoir été signées par la Warner pour 3 scénarios, Assassin plus 2 autres. Donc, elles arrivent à réaliser le deuxième qui s'appelle Bond, qui est un petit thriller, un thriller à petit budget, enfin, un néo-noir. Et ensuite, grâce au petit succès d'estime de Bond, et surtout parce qu'elles ont des appuis conséquents à la Warner, elles arrivent à motiver la Warner de leur confier la réalisation de The Matrix, qui est donc un film de science-fiction au budget 10 fois supérieur à Bond, alors qu'elles n'ont jamais fait de science-fiction, elles n'ont réalisé qu'un tout petit film à tout petit budget. Et quand même, ça marche, et donc on leur donne les clés du camion alors qu'elles ne sont personne.
Elles ne sont personne, elles sont, bonjour Laurent Aknin,
bonjour.
Un peu comme leur contemporain Quentin Tarantino, elles ont une très très grande culture, mais totalement autodidacte. C'est une culture qui s'est forgée dans les salles de cinéma, dans les livres, dans les BD, dans toute la pop culture de l'époque.
Et dans les vidéoclubs. Il ne faut pas oublier la force, le poids des vidéoclubs et de la découverte du cinéma, que ce soit les classiques, les séries B, le bis, les séries Z les plus invraisemblables ou les grands classiques, par le biais de la vidéo domestique. Ça a été le cas de Tarantino, c'était aussi le cas des sœurs Wachowski. C'est-à-dire une culture cinématographique et cinéphilique qui ne s'est pas fait à l'université, à proprement parler, ni par des cours de cinéma, mais en autodidacte, en ingurgitant un nombre de films considérables et qui a fait une entrée dans une forme de pop culture et de culture au sens large par le biais du médium cinéma. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a eu Tarantino, il y a eu elle, il y en a encore 2 ou 3 autres qui ont fait le même chemin, et c'est une date un petit peu dans l'histoire du cinéma hollywoodien, une nouvelle génération qui s'est auto-formée, pas dans les studios, plus dans les universités, mais dans les vidéoclubs.
Et sans hiérarchisation des genres.
Surtout sans hiérarchisation, ce qui aboutit justement, comme chez Tarantino, à une sorte de métissage des cultures. Il y a une série B de Hong Kong à la même valeur qu'un classique de Bergman. Voilà. Et à partir de là, quelque chose d'autre se met en place dans la conception de ce que doit être un scénario et un film.
Erwan Desbois, vous dites un petit film. Moi, je me souviens très bien de la sortie de ce film, Bond, de deux inconnus, effectivement, mais un polar qui jouait avec les codes, mais qui déjà commençait à renverser un peu les choses. Qu'est-ce qu'il y a déjà de Matrix dans Bond?
Oui, quand je disais petit, c'est vraiment juste par le budget, par voilà le cadre de production. Après, sur la forme, c'est un film qui tient tout aussi bien le passage du temps que Matrix. On peut le revoir aujourd'hui, Bond, et c'est toujours extrêmement juste et extrêmement actuel. Ce qu'il y a de Matrix déjà dans Bond, ça va être cette idée que les personnages sont coincés dans des cases, sont coincés par un ordre établi qui leur est imposé, qui les opprime, et dont il faut s'extraire. Voilà, il y a une réplique très très forte dans Bond qui arrive dès le premier acte, qui est de dire l'une des deux héroïnes qui dit « je veux me sortir de là, je veux une nouvelle vie ». C'est totalement exactement ce que vit Neo dans Matrix, c'est ce que vit tous les personnages de Matrix qui veulent sortir de la Matrix. Bond, c'est simplement exprimé de manière plus réaliste. Voilà, on est dans l'histoire, ça va être deux femmes qui sont utilisées par la mafia de Chicago. L'une est la femme objet d'un parrain de la mafia, l'autre fait des petits travaux de concierge dans l'immeuble où habite la première, et toutes les deux, elles vont monter un plan pour arnaquer la mafia, pour voler 2 millions de dollars et s'enfuir en faisant porter le chapeau au mari de la première. Donc on est vraiment déjà dans une histoire d'émancipation, d'oppression, d'autant plus que, donc comme je l'ai dit, ce sont deux héroïnes, et ça c'est extrêmement transgressif. D'ailleurs, on a essayé de leur faire changer ça à Hollywood, de leur dire « vous voulez pas revenir au schéma classique d'un homme, une femme quand même, c'est quand même plus carré, on s'y retrouve mieux ». Et elles ont tenu bon là-dessus, elles ont dit « non, justement, tout le principe du film, c'est que ça va être deux femmes qui se libèrent des hommes, et qui à la fin sont libres, sont riches et ne dépendent plus des hommes, sont émancipés ». Et donc c'est le même thème appliqué à un autre genre, et finalement c'est ce que vont faire les Wachowski dans toute leur carrière, c'est appliquer quelques thèmes, quelques idées fortes en changeant de genre à chaque film, un peu comme Tarantino finalement, cette idée de le genre est interchangeable tant qu'on raconte les mêmes personnages, les mêmes forces motrices, les mêmes histoires.
Et qui plus est, les appartements des deux héroïnes sont mitoyens, et donc une des questions du film, c'est comment passer d'un espace à l'autre. Alors, il y a un troisième personnage dans cette histoire qui n'est pas des moindres, c'est Joel Silver, Laurent Aknin, qui est le producteur de ce film et qui est le grand producteur du film d'action à grand spectacle de l'époque.
Oui, c'est une figure qui maintenant est un petit peu oubliée au profit des noms des réalisateurs, mais c'est vrai qu'il renvoie quand même à cette idée du producteur, pas roi à proprement parler, mais enfin déterminant, comme il y en a eu à chaque génération. Il y a eu Robert Levens à l'époque du Nouvel Hollywood, là il y a Joel Silver. Et Joel Silver, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, ce n'est pas du tout un producteur de cinéma d'auteur. Du tout. C'est le blockbuster hollywoodien, c'est des films, c'est une cash machine, en quelque sorte. Et il a réussi quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire de confier justement ce film à ce qui semble être un duo d'auteurs, d'autrices, comme d'auteuses, je ne sais pas comment on doit dire maintenant, mais j'aime bien cette hésitation. Autrice, moi j'aime bien. Et qui, justement, comme on le disait, va leur donner les clés en voyant qu'il y avait un potentiel très fort, parce que, encore une fois, ça s'inscrit dans un genre. La Silver, comme les Wachowski, joue à fond la carte du cinéma de genre, sans se répéter, justement. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, puisque c'est cette période dans le cinéma hollywoodien où le cinéma fantastique, de science-fiction, de genre, entre guillemets, va partir dans une direction vraiment inattendue, également avec le polar. Mais, par exemple, c'est presque à la même époque qu'on va faire Fight Club, qui va être un semi-bid commercial avant de se transformer en film culte. On voit que là, dans cette période-là, il y a une recherche dans le cinéma de genre, le cinéma fantastique, le cinéma un petit peu déviant, qui est très fort. Et Silver, qui est vraiment un producteur extrêmement bien installé, qui est vraiment une machine à fabriquer du blockbuster, joue sur cette carte en disant, voilà, ça va donner quelque chose, en travaillant bien sûr, en donnant les moyens que la production, c'est-à-dire que les production value, le visuel, les effets spéciaux, soient à la hauteur. Et grâce à ça, on a pu avoir Matrix.
Et que disent les Wachowski à Joel Silver? Entre autres, ils lui disent « on voudrait faire Ghost in the Shell en vrai ». Ghost in the Shell, dessin animé de Mamoru Oshii, et on le retrouve dès le début, dans le générique, Erwan Desbois.
Oui, voilà, cette pluie de caractère vert, c'est littéralement le premier plan de Matrix, c'est littéralement le premier plan de Ghost in the Shell. Et donc c'est pas du plagiat, c'est vraiment un hommage, puisque les Wachowski adorent Ghost in the Shell comme elles adorent toutes les références qu'elles peuvent mettre dans le premier Matrix. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre ce dessin animé qui est de niche, puisqu'on, voilà, on parle d'un animé japonais très mature, très...
Avant la mode des animés.
Qui arrive avant la mode, qui en plus s'adresse à un public adulte, qui traite de sujets très complexes, voilà, sur la virtualité, qu'est-ce que c'est que l'humanité, les machines, enfin, tous les sujets finalement qui sont dans Matrix, mais qui dans Matrix arrivent à être redigérés, resynthétisés d'une manière qui s'adresse au plus grand nombre, alors que Ghost in the Shell est encore un film... Surtout à l'époque, qui est encore un peu ardu.
Je ne suis même pas sûr que je reconnaissais Ghost in the Shell quand je leur ai fait la proposition. C'est évident. Le anime japonais était vraiment plus que de niche. Mais c'est justement cette notion de cinéastes qui vont puiser des sources dans des niches cinéphiliques extrêmement pointues qui est vraiment intéressant.
Et donc, dans Ghost in the Shell, il y a cette idée vraiment déjà de la fusion entre le réel et le virtuel pris à égalité. Voilà, que ne plus savoir ce qui est réel et ce qui est virtuel, c'est pas forcément un mal, c'est juste la preuve que les deux mondes existent maintenant sur un pied d'égalité.
Juste après ce générique, on a donc une scène d'action, hein, on est vraiment chez Joel Silver pour le coup, on ne perd pas de temps, c'est une scène d'action avec des forces de l'ordre qui cherchent dans un couloir obscur et délabré une femme qui donc semble être une criminelle. Qu'est-ce qui fait que dès le départ, on ne s'identifie pas aux forces de l'ordre comme on devrait le faire, mais avec la criminelle Erwan Desmois?
Alors, c'est parce que je pense que il faut prendre avec les Wachowski, il faut prendre force de l'ordre dans le sens le plus global possible. Voilà, c'est les forces de l'ordre établies. Voilà, comme je disais pour Bond, qui l'ordre, c'est ce qui va écraser les individus, c'est ce qui va les empêcher d'exister en tant que tels. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà présent, donc de manière extrêmement forte dans leur scénario des Bond, des Matrix, alors qu'elles n'ont pas encore fait leur transition, que c'est pas encore présent. Voilà, c'est déjà plus présent dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. C'est petit à petit que voilà, on va tirer les fils et se dire, ah ben en fait oui, c'était là dès le début, effectivement elles l'ont vécu elles-mêmes comme elles l'écrivaient déjà dans leur scénario. Donc vraiment cette idée, voilà, que l'ordre c'est la menace.
Il faut bien rappeler que dans cette première séquence, il y a deux forces de l'ordre. Il y a la police ordinaire, bon, les flics de la rue, dans la voiture, qui eux sont presque rassurants, on va dire, ils sont ordinaires, ils font leur... Et puis arrivent les espèces de men in black, lunettes noires, costumes, style FBI, tels qu'on les connaît, on les imagine depuis l'époque du Watergate, c'est-à-dire quelque chose qui sent la menace étatique, qui sent la menace vraiment d'un ordre supérieur, et ils jurent complètement par rapport aux policiers ordinaires. Et c'est comme ça qu'on aperçoit la bascule.
Alors on aurait pu croire avec cette première séquence que Trinity était l'héroïne du film d'action qu'on allait voir, puis quoique, peut-être qu'elle en est l'héroïne, on verra plus tard qu'avec Matrix, toutes les options, toutes les opinions, toutes les interprétations se défendent. Quoi qu'il en soit, dans la scène qui suit, après que la caméra est entrée dans le combiné d'une cabine téléphonique, comme il n'en existe presque plus, c'est un autre personnage encore endormi que nous allons découvrir.
Qui est là?
Joy.
Ouais.
Et derrière la porte couvre Neo, le pseudonyme de hacker d'un certain Thomas A. Anderson. Il y a en effet, d'une certaine façon, un lapin blanc. Il faut préciser, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, que ce que dit Neo, c'est ce qu'il voit s'écrire sur son écran d'ordinateur. En anglais, il y a marqué « Wake up, Neo », »,« Réveille-toi, Neo ». En français, ça donnait « Debout, Neo ». Première référence, donc complètement explicitée du film, Laurent Hacquin, avec ce lapin blanc, Alice...
Alice au pays des merveilles, qui va être le leitmotiv sur toute la tétralogie, puisque même dans le dernier film, la musique, c'est une reprise par Pink de Jefferson Airplane, White Rabbit. Donc morceau emblématique du Jefferson Airplane, donc des années 60 de Woodstock, qui raconte de manière imagée le voyage d'Alice. Donc c'est vraiment un fil conducteur pendant tout le cycle Matrix. Et à un moment donné, Morpheus va dire à Neo, je suppose que tu te sens comme Alice au moment où elle est tombée, maintenant tu peux choisir. Donc oui, il y a cette idée force de Alice qui a tellement marqué la contre-culture américaine depuis les années 60, Lewis Carroll, surtout la chasse au snark. Donc cette idée de tomber dans un univers parallèle, au fond d'un terrier, où on va changer de forme, où la réalité va se distendre, se disloquer, où les repères vont changer en permanence. C'est ça, l'aventure d'Alice, faut bien se rappeler qu'elle change de taille, elle devient plus petite, plus grande, elle va rencontrer des personnages qui vont avoir une logique à eux, une logique qui est différente. Donc le parcours initiatique d'Alice va être pris très très au sérieux par beaucoup dans la contre-culture comme le moment où on va faire le voyage, l'expérience, pour élargir son champ de conscience. C'est vraiment quelque chose qui va courir toute la culture américaine, cette référence à Lewis Carroll et Alice. Et donc, les Wachowski reprennent ce thème avec la figure du lapin blanc, mais jusqu'à presque la parodie, c'est-à-dire qu'on va trouver du lapin presque partout dans le cycle Matrix.
Oui, il y a même une scène où il y a une télévision en fond de décor avec des lapins géants.
Oui, et ces lapins géants viennent d'un film de série B qui s'appelle Les Rongeurs de l'Apocalypse, Night of the Lepus, dans lequel il y a un savant qui crée il y a une invasion de lapins, les lapins deviennent géants, il y a Stuart Fishman dans ce film, c'est une série B absolument incroyable, avec Janet Leigh en plus en perdition.
Alors il y a une deuxième référence dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais là on peut pas l'entendre parce qu'on la voit. Neo est un hacker, donc il fourgue des logiciels, des disquettes, c'est encore l'époque des disquettes, c'était il y a 20 ans et quelques, et elles sont cachées où ces disquettes? Dans un livre, un livre qui s'appelle Simulacre et Simulation, il est signé Jean Baudrillard. Alors le philosophe sera un peu goguenard sur l'emprunt de ses concepts par les Wachowski, avec cette réflexion moqueuse, mais qui sera intégrée, en fait, comme toutes les critiques et exégèses du film aux suites, et notamment donc dans le dernier volet, Matrix Résurrection. Baudrillard dira « Matrix, c'est un peu le film sur la matrice qu'aurait pu fabriquer la matrice, Erwan Desbois. »
Il y a une accumulation de références dans Matrix, surtout dans le premier, après dans les autres, ça devient autoréférentiel en fait, plus que... Mais dans le premier, c'est presque vertigineux. Voilà, il y a Alice, il y a Baudrillard, il y a aussi le magicien d'Oz dans le principe du voyage d'un monde réel vers un monde chimérique. Il y a aussi des références à la culture, à la politique des États-Unis. Enfin, c'est un pot-pourri extraordinaire. Voilà, on voit vraiment c'est vraiment le principe des réalisateurs et réalisatrices de la trentaine qui veulent, c'est le principe du premier album en musique où on met tout ce qu'on connaît et on le met dans dix morceaux. Là, on le met dans 2 heures de film. Et effectivement, c'est amusant que Jean Baudrillard se soit alors effectivement, ils l'ont peut-être pas compris comme Jean Baudrillard voulait le comprendre, mais après, c'est adapter, c'est trahir. Et je pense qu'il y a quand même une idée de Baudrillard qui est gardée dans le Matrix 1, c'est cette idée qui est la phrase qui est dans Simulacre et Simulation, de remplacer le réel par les signes du réel. Ça, je pense que c'est vraiment
le désert du réel.
Voilà, le principe du désert du réel.
Bienvenue dans le désert du réel. Welcome to the desert of the
réel. De manière littérale, c'est le monde réel qu'ont laissé les humains et les machines après leur guerre nucléaire qui nous est expliquée dans la suite du film. Mais c'est aussi finalement, ça peut aussi être vu comme étant la matrice, parce que c'est la matrice qui est un simulacre de réel, sans qu'il n'y ait plus rien de vrai dedans, où tout n'est plus que des zéros et des uns et du contrôle masqué. Donc voilà, je pense que ça montre surtout que Matrix finalement est interprétable dans tous les sens, et c'est à la fois c'est la grande force et peut-être un peu la limite immature du film d'être... Tout le monde peut y voir ce qu'il veut finalement, et donc Baudrillard a décidé qu'il y voyait une trahison de son livre. Je suis sûr que les Wachowski, on leur demande encore aujourd'hui, ils disent non, on est fidèle à ce qu'on a vu du livre. On a mis de Baudrillard ce qu'on voulait mettre dans Matrix.
Mais Baudrillard, Laurent Aknin, pointe quand même un des paradoxes du film, qui n'en manque pas, de paradoxes, et que c'est un film qui dénonce la virtualité des images, qui préfigure le devenir numérique du cinéma à grand spectacle. C'est en cela qu'il est vraiment un moment charnière de l'histoire du cinéma. Or, ce qu'il fait finalement, c'est du spectacle avec la dénonciation du spectacle.
C'est le principe même du genre. Le genre et l'imaginaire en particulier, tous les processus d'imaginaire, l'imaginaire sert à comprendre le réel, sert à comprendre des concepts. Donc le film fait du spectacle, bien évidemment, passe par le genre, par la science-fiction, par l'imaginaire, mais l'imaginaire est un des meilleurs moyens justement de faire saisir des concepts parfois les plus complexes, beaucoup plus qu'un discours hermétique dans un livre. Donc passant par le genre, passant par cela, le film a parfaitement réussi son pari et touché son objectif.
D'autant que le film n'arrive pas de nulle part. Le terrain a quand même été suffisamment labouré pour que le spectateur puisse s'y retrouver et se laisser embarquer dedans. Quand le film sort, ça fait déjà presque 20 ans qu'on adapte Philip K. Dick au cinéma. Le courant littéraire du cyberpunk est déjà très installé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Laurent Aknin, vous dites que ce film, c'est un peu l'apogée du cyberpunk, mais c'est aussi sa fin.
Oui, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, comme d'habitude, le cinéma a eu un temps de retard sur la littérature de science-fiction, c'est-à-dire que le cyberpunk, Philip K. Dick, c'est déjà les débuts des années 60, pratiquement, avant même que Kubrick fasse 2001. Donc il y a quand même un décalage. Donc c'est vrai qu'à partir des années 80, on a eu des adaptations de Philip K. Dick, on a eu le film de Verhoeven, on a eu le thème du cyberpunk, le genre du cyberpunk est arrivé au cinéma. Et Matrix, c'est vraiment le point d'orgue. Et en même temps, c'est sa fin. Pourquoi ? Parce que le cyberpunk, faut rappeler ce que ça signifie, oui, cyberpunk.
Voilà,
punk, parce que c'est nos futurs, dans la tradition punk, donc le futur est maintenant. Le cyberpunk, c'est un genre de science-fiction où il n'y a pas vraiment de voyages spatiaux, ça se passe sur Terre, dans un monde très proche du nôtre, contrôlé par des multinationales, des entreprises, avec un doute sur le réel en permanence, un univers de simulacre, par les informaticiens, voilà, c'est tout ça, le cyberpunk.
Typiquement, c'est Blade Runner, quoi.
Typiquement, c'est Blade Runner, mais c'est un petit peu aussi Fight Club, c'est-à-dire, voilà, un univers qui se décale dans le quotidien. Nous sommes déjà dans une sorte de futur. Voilà, grosso modo, c'est ça, le cyberpunk. Et il y a un doute sur le réel en permanence, parce qu'on est dans un univers contrôlé, un univers de simulacre. Donc, Matrix, c'est vraiment l'apogée de ce courant, de cette idée, qui va s'arrêter, enfin, ça c'est mon idée, pile en 2001 avec le 11 septembre, dans le cinéma américain. Parce que là, le réel va vraiment frapper un très grand coup. Et on voit très bien dans Matrix le passage d'un genre de la science-fiction à l'autre. Le premier Matrix, c'est l'apogée du cyberpunk. Les deux films suivants, il n'y a plus de doute sur le réel. C'est bien tranché. Il y a le monde de la matrice, on sait où quand on y est. Il y a le monde réel où on fait la guerre contre les machines, sous la terre, dans la cité souterraine. Et on passe de l'un à l'autre, d'accord, mais on sait toujours où on est. Il n'y a plus ce doute. Le cyberpunk a vécu. Et Matrix, le cycle, justement, est symbolique du passage d'un régime de l'imaginaire à un autre. Et ça, pour ça, la tétralogie est fascinante.
Erwan Desbois.
Oui, c'est vrai qu'aussi dans les Matrix 2 et 3, la matrice est beaucoup plus virtuelle. Voilà, il y a les amas de Mr. Smith qui arrivent. On peut plus avoir de doute sur la nature virtuelle du.
Et du coup, le doute qui est le simulacre qui est la marque du cyberpunk laisse la place à un autre registre qui est celui vraiment d'une sorte de néo-mythologie. C'est-à-dire que alors qu'il y avait beaucoup plus de références à l'imaginaire, au doute, au cyberpunk dans le premier Matrix, à partir de 2 et 3, à partir de Reloaded et Revolutions, on a une avalanche de figures mythologiques. On a un dieu des enfers, on a un grand architecte, on a Séraph, on a des anges, on a des backdoors de informatique, on a des programmes pirates. On est vraiment dans une référence entièrement mythologisée, mais qui est très différente finalement du principe du cyberpunk qui était, lui, dans le premier film.
Oui, où les enjeux sont beaucoup plus petits dans le cyberpunk. On parle d'individus qui sont pris dans une masse qui les dépasse, alors qu'effectivement, dans le 2 et le 3, ça va être beaucoup plus lyrique. Voilà, on est dans des contes monstrueux en termes d'échelle et tout. Le 1, c'est vrai que le Matrix 1 fait la synthèse de tous les grands marqueurs du cyberpunk qui vont être Dick, qui vont être William Gibson avec Nécromancien aussi, qui vont être Ghost in the Shell, qui est aussi un immense marqueur. Voilà, tout est synthétisé. Effectivement, une fois que tout est synthétisé, on passe à autre chose. Voilà, il y a cette espèce de point de goulot d'étranglement, de transfert comme les personnages qui transfèrent du virtuel vers le réel.
Alors revenons à ce premier volume, puisque c'est vrai que c'est difficile de parler du Matrix originel quand on sait tout ce qui est venu après. C'est aussi donc un film qui crée ses propres mythes, et notamment avec ce genre de scènes iconiques.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité ?
Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Et c'est déjà pas mal, quoique la vérité, hein. Derrière la transparence du discours, et on a beaucoup reproché au film d'être littéral et bavard, Laurent Hacquenin, il y a quantité de références qui sont prises à rebours et souvent de manière contradictoire. Pour n'en citer qu'une, l'homme qui s'adresse à Néo, qu'on vient d'entendre, il s'appelle Morpheus, comme Morphée, le dieu du sommeil. Or, c'est celui précisément qui propose de se réveiller. C'est ce qui en fait une œuvre précisément ésotérique, Laurent Hacquenin, c'est-à-dire qu'elle est à interpréter de façon inépuisable. Je parle à l'auteur d'ésotérisme et cinéma, où Matrix, évidemment, occupe une place éminente.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, toute cette séquence est un rituel initiatique. Et je veux dire, on a un néophyte, Néo, qui arrive devant le maître et qui lui donne un discours à la fois explicite et obscur. Et il lui donne le choix, voilà, est-ce que tu veux poursuivre ton initiation ? Est-ce que tu veux voir la vérité ? Est-ce que tu veux évoluer ou non ? Et encore une fois, là, ce qui est intéressant, parce qu'il y a le libre arbitre de Néo, il peut choisir. C'est ça qui est vraiment très très fort. Et quant au nom du personnage, Morpheus, comme dans tout le cycle Matrix, il y a pas des doubles sens, mais il y a des libertés d'interprétation. La différence entre un discours dogmatique et un discours ésotérique, c'est que dans l'ésotérisme, il y a des codes, il y a des signes, mais ils ne sont pas fixes, ils sont polysémiques. Et c'est à chacun ensuite de comprendre le sens qu'il veut lui donner à un moment donné. C'est en ça que c'est une école de liberté, donc on s'est bien fait. Là, Morpheus, c'est à la fois le dieu du sommeil, donc a priori, c'est contradictoire, puisqu'il va réveiller Néo. Mais s'il est dieu du sommeil, s'il endort, il peut aussi réveiller. Mais Morpheus, c'est la morphe, c'est la forme. Donc c'est celui qui va donner une nouvelle forme à l'univers. Il y a un double sens. Les pilules, c'est le choix du candidat. Il peut continuer, il peut poursuivre. Et il peut reculer. Il y a tout ce discours qui est extrêmement fort, et c'est pour ça que cette séquence a été tellement iconique, commentée, parce que justement, elle reprend des thématiques extrêmement archétypales, des rituels initiatiques, des choix, du libre choix, des formes, des doubles sens des mots, des situations, tout en laissant la liberté à la fois à Néo de choisir et au spectateur de comprendre ce qu'il veut comprendre à un moment donné.
Mais c'est une œuvre, Erwan Desbois, qui est d'autant plus d'ailleurs mystérieuse, ésotérique, que les Wachowski, comme David Lynch par exemple, pour ses films, on parlera de Mulholland Drive demain, se gardent bien d'en verrouiller le sens par des discours qu'on dirait parafilmiques, et même des Matrix, ils ont fait inclure, et je crois que c'est très important, dans leur contrat, une clause particulière qui les exempte de promotion de leur film auprès de la presse.
C'est ça, les Wachowski ne se sont jamais prononcés dans la presse pour faire des campagnes promotionnelles pour leur film. Jusqu'à maintenant, le Matrix 4, c'est la première fois qu'on entend autant Lana Wachowski, d'ailleurs on la voit radieuse discuter, enfin on la sent enfin ouverte. Je pense qu'il y avait une grande peur qu'on comprenne de travers ce qu'elle voulait dire ou qu'on les piège, enfin il y avait une grande méfiance vis-à-vis des médias, je pense. Ce qui fait que, effectivement, c'est un peu comme Terrence Malick. Pendant 25 ans, on a eu aucune nouvelle des Wachowski. À part, il y a eu un portrait dans le New Yorker, fait par un journaliste qui, du coup, est devenu leur co-scénariste, donc qui était déjà un ami proche à l'époque.
Donc, tout se récupère, hein, rien ne se perd chez les Wachowski.
C'est ça, effectivement. Et pendant 25 ans, ils n'ont parlé que par leur film. Et enfin, ils ont laissé parler leur film. Et là où ça devient passionnant, effectivement, c'est que quand on parle d'un film comme Matrix, il y a tellement d'interprétations possibles. Enfin, elles nous ouvrent toutes les portes. Et après, elles nous disent, vous prenez celle que vous voulez. On vous donne tous les signes, on vous donne toutes les clés. Et c'est à vous de réorganiser, finalement, le sens du film comme vous l'entendez. Et c'est pour ça que c'est très précieux, effectivement, qu'elle n'ait jamais, enfermer le sens de Matrix 1 par un discours disant non mais c'est ça qu'on voulait en dire, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça qui en a fait un film si important, si puissant. Et ce qui joue aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que il y a aussi un génie de l'image dans le 1, qui, que ce soit dans cette scène-là ou dans d'autres scènes, une manière de marquer l'œil du spectateur par des plans incroyables. Voilà, le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, c'est en gros plan dans les lunettes de Morpheus. On voit le reflet de la possibilité du choix entre les deux chemins est matérialisé à l'écran par un plan tout simple. Et c'est ça finalement la force du cinéma, et d'autant plus la force du cinéma de spectacle hollywoodien, c'est de savoir trouver des plans qui vont marquer le plus grand nombre, en lui faisant comprendre par l'image tout le sens du propos et tous les sous-textes possibles, et qui lui donne toutes les clés pour choisir soi-même qu'est-ce que je fais de cette image de pilule rouge à gauche, pilule bleue à droite, et Neo au milieu, d'autant plus que tout le texte qu'on a entendu de Morpheus, c'est encore plus fort de l'entendre sans les images, c'est qu'il s'adresse vraiment au spectateur. Voilà, Neo est vraiment juste un transfert de ce que dit Morpheus, c'est adressé au spectateur, littéralement. Qu'est-ce que tu veux choisir? Voilà, l'ordre, le libre-arbitre, etc. Donc il y a vraiment une manière de savoir parler au spectateur sans filtre et en se faisant comprendre de tout le monde.
Mais ce qui permet aussi la multitude des interprétations, Laurent Acna, c'est qu'il y a des supports pour ces interprétations. Si le film était sorti 10 ans avant, ça aurait été dans les fanzines qu'on se déchirait pour interpréter ce film. Matrix est contemporain d'un moment très important, qui est la démocratisation de l'accès à Internet, de la création de forums multiples où des personnes non autorisées, c'est-à-dire pas des philosophes qui sortiront eux aussi leurs livres sur Matrix, souvenons-nous de Slavoj Žižek, Ilie Düring et autres. Non, c'est vraiment tout le monde va pouvoir s'exprimer sur ce film.
Oui, et ça a été un très très grand moment parce que justement le nombre de théories, d'interprétations, de débats qu'a suscité Matrix sur les réseaux sociaux qui vont émerger au même moment. Donc c'est intéressant de voir que ce film est arrivé au moment où le cyberspace a vraiment explosé au niveau démocratique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le monde a pu se connecter et proprement vertigineux. J'ai même encore aujourd'hui, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui a une photo de Matrix sur sa page Facebook en photo de couverture. C'est-à-dire que ça continue. Il y a quelque chose qui est du domaine d'un film à la fois générationnel, qui a vraiment marqué, mais alors très très profondément, toute une génération de spectateurs qui l'ont vu et qui ont pu s'exprimer, échanger, débattre, et qui du coup se sont servis de ce film pour explorer des nouveaux territoires de réflexion, de pensée, qui ont dépassé largement le cadre purement cinématographique de l'œuvre. Ça a été un moment clé, un moment charnière dans l'expression d'un débat sur des thématiques qui étaient finalement extrêmement pointues, complexes, philosophiques, ésotériques ou autres. Et ça a donné vraiment quelque chose qui a fait que les films suivants ont été à la fois très attendus, un petit peu ont déçu, mais parfois ont pu rebondir, ont fait d'autres débats. Et la grande idée, effectivement, comme on le disait, c'est que les Wachowski n'ont pas voulu donner de mode d'emploi. Oui. Ça, c'est quelque chose de vraiment très fort. Le mode d'emploi, c'est principe même de l'ésotérisme, c'est à celui qui reçoit le discours de faire sa recherche et de faire son interprétation.
Mais ce qui fait que les interprétations et les récupérations des mythes créés par Matrix peuvent parfois surprendre quand on lit par exemple votre livre, Erwan Desbois, qui parle de la grande émancipation et qui relie les Wachowski au grand mouvement émancipateur on pourrait même dire des 50, 60, 70 dernières années, notamment aux États-Unis. C'est que par exemple cette scène iconique avec la pilule bleue ou la pilule rouge qui est censée être celle qui vous fait voir enfin la vraie réalité, Red Pill, c'est le nom par exemple d'un groupe masculiniste extrêmement virulent qu'on trouve sur le fameux forum Reddit et qui n'est pas tellement raccord, sans doute, avec les combats menés par les Wachowski.
Ah bah c'est, non, c'est sûr que c'est à la fois le revers de la médaille de laisser les clés et de laisser chacun décider d'avoir la bonne réponse ou pas. C'est que, je pense que c'est, bon, malheureusement, ces personnes-là sont convaincues d'avoir la bonne réponse à comment s'émanciper et comment battre l'ordre établi et comment construire une société. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que les Wachowski ont de plus en plus décidé dans leurs films suivants de réduire le champ, de donner les clés, mais aussi de dire voilà ce qu'on veut vraiment dire. Et pour moi, Matrix 4 est très très important là-dedans, puisque Matrix 4 résout toutes les incertitudes, toutes les ambiguïtés de la trilogie en disant alors tous ces points où ça pouvait être ambigu, où ça pouvait être compris comme ci ou comme ça. En fait, il fallait le comprendre comme ça. Voilà. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Typiquement, tous les aspects sur la guerre, sur la violence, sur le recours à la violence, sur l'amour en face. Il y a une clarification qui est venue ensuite où elles se sont rendues compte que voilà, faire confiance aux gens pour comprendre ce qu'ils voulaient.
C'est parfois
donner des clés à ses ennemis aussi.
Un peu périlleux, le roi Akna.
L'idée d'une récupération par ce moment Red Pills, mais il y en a d'autres. C'est un peu c'est le côté obscur de la force quand il s'agit de ce type de discours. C'est-à-dire que, de même pour un discours ésotérique, à un moment donné, certaines personnes qui vont se plonger là-dedans vont pouvoir voir, comme l'ésotérisme est basé sur des symboles, des codes, des signes, avoir des codes, des signes, des symboles partout. Et au lieu d'avoir un mouvement d'ouverture de l'esprit, c'est l'inverse, on va tomber dans une structure paranoïaque. Et ça, c'est le côté obscur du discours ésotérique. La même chose pour le mouvement d'émancipation. Maintenant, c'est quand on dit il faut se réveiller, ben c'est wake up. C'est pas tout la même chose. Ça peut être un mouvement réactionnaire. Mais c'est les deux pôles. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis les origines des discours philosophiques et ésotériques.
Un côté obscur de la force. En voici un. C'est un personnage, un programme. On ne sait pas trop sans qui Matrix ne serait pas Matrix. C'est l'agent Smith. Le rôle avait été proposé pour l'anecdote à Jean Reno, qui a préféré tourner dans Godzilla, comme quoi parfois on se trompe. C'est donc à jamais le visage de l'acteur australien Hugo Weaving qui va proliférer dans la matrice.
Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le monde, 9e épisode Matrix avec Laurent Aknin et Erwan Desbois. Et on a entendu virus, on a entendu que l'humain est une maladie contagieuse, le cancer de la planète. Et c'est sans doute, Laurent Aknin, ce qui fait de Matrix un véritable classique, c'est-à-dire que sa réception évolue avec le temps. Un discours comme celui de l'agent Smith ici résonne évidemment tout autrement 23 ans plus tard, après une pandémie et la prise de conscience de la finitude de la planète suite à l'action de l'homme.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant que celui qui dit cette phrase est un virus. C'est un virus informatique, lui. Donc, il y a toujours une profusion de sens qui est assez savoureuse. Bien sûr, on parle beaucoup maintenant de virus dans la race humaine, mais au départ, c'était un virus informatique qui parlait ainsi à un être humain et qui est le reflet, c'est dit, de Neo. C'est-à-dire que Neo est le médiateur, et le sauveur et l'élu, et en face de lui, son apparition déclenche, on comprend, l'apparition de l'agent Smith. Comme si l'un était le reflet de l'autre, ce qui est, au niveau de la construction en miroir, quelque chose à la fois de très classique et de très pertinent. La matrice, le monde virtuel, le monde réel, et l'un est un reflet de l'autre et est créé par l'autre. La question étant, qu'est-ce qui crée l'autre en premier ?
Dans toutes les interprétations de Matrix, j'aime beaucoup celles qui considèrent que l'agent Smith, c'est le vrai héros de la tétralogie et que l'homme, effectivement, Morpheus en premier, est un virus qui met en danger l'harmonie entre les hommes.
Du point de vue de la Matrice, si on change juste le point de vue, et si on se met du point de vue de la Matrice, le héros, bien sûr, c'est l'agent Smith. C'est évident. C'est clair.
Et puis, c'est un film aussi qu'on voit autrement, parce qu'on en parle depuis le début. Les Wachowski ont fait donc leur transition. Sont maintenant très clairement deux sœurs et la dimension queer du film a sans doute échappé à tout le monde au moment où le film est sorti, d'abord parce que ces questions n'étaient pas dans l'air du temps et qu'on peut complètement relire Erwan Desbois, comme vous le faites dans votre livre, toute cette œuvre à ce regard.
C'est ça, oui. Je pense que c'était encore présent seulement en sous-texte dans leur premier film, voilà, à la fois parce qu'elles travaillaient encore dans le cas de la Warner, où en étant vraiment des employés, donc elle pouvait pas exprimer tout ce qu'elle voulait. Typiquement, il y avait un personnage dans Matrix 1, le personnage de Switch, qui était censé être un homme dans la réalité et qui devenait une femme dans la Matrice. Donc il y avait cette idée de changement de sexe qui finalement a dû être retirée. Donc le message était moins clair que ce qui sera dans leurs œuvres suivantes, où ça devient explicite à l'image. Mais il y a quand même déjà l'idée de, sans forcément aller jusqu'aux propos politiques en faveur de l'émancipation, mais il y a quand même l'idée d'effacer les limites, d'effacer les barrières. Typiquement, il y a déjà quelque chose de très transgressif, dans la manière dont fonctionne le duo Neo-Trinity, qui est totalement non-genré et qui est pas du tout dans une logique où lui va être le héros testostéroné de l'époque. On parlait des films d'action années 80-90. Le personnage de Neo et le choix de prendre Keanu Reeves pour l'incarner, c'est quand même extrêmement en rupture avec ça. Et à côté de ça, Trinity est totalement son égal. Voilà, on parlait tout à l'heure du fait que la première scène d'action, c'est elle qui l'interprète. C'est elle qui est plus forte que lui au début. Et pendant tout le film, et ensuite encore plus pendant le reste de la trilogie, ils vont vraiment fonctionner en duo. C'est eux deux qui arrivent à vaincre la Matrice, qui arrivent à amener l'humanité à sa salvation. C'est pas du tout Neo qui va sauver la demoiselle en détresse ou la princesse emprisonnée. Donc il y a vraiment déjà cette idée. Et puis, quand on les voit à l'écran ou quand on les voit dans la manière dont ils sont habillés, dont ils sont coiffés et tout, ils sont pareils. Voilà. Il y a déjà cette idée. On n'est pas encore dans l'idée de changer les genres, mais on est déjà dans l'idée de les effacer. Et que finalement, on va au-delà de ça. Chacun existe en fonction de son âme, finalement.
Et les genres, on ne sait jamais, quand on parle de Matrix, si on parle des genres cinématographiques ou sexuels, aussi, qui sont peut-être la même chose. Parce que Laurent Aknin, ce que propose, ce que tente en tout cas les Wachowski, dans la tétralogie, c'est de dépasser la binarité, c'est-à-dire dépasser le gentil contre le méchant, de proposer une sorte de troisième voie, mais qui vient de très loin, vous l'avez relevé, qui vient de Metropolis, par exemple.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le nom de Trinity, et lui-même exemplaire. On pouvait, dans un premier temps, dire Trinity parce que c'est la troisième dans un trio qui, avec Morpheus, Neo, Trinity. Il peut y avoir une référence chrétienne, la Trinité, bon, très bien, mais ça peut être aussi pris comme une troisième voie, un troisième genre, une troisième option. C'est ça que, encore une fois, il y a une polysémie. Et c'est vrai que dans le troisième film s'appelle Révolution, mais en fait, il n'y a pas de révolution. C'est ça qui est aussi très curieux. C'est une idée qui vient effectivement de Métropolis. Pour se rappeler, dans Métropolis, il y avait deux mondes. Le monde de la surface, les jardins de Métropolis, la grande cité. Le monde des ouvriers en dessous, la ville souterraine, que l'on retrouve dans Matrix, dans Zion, la cité humaine qui combat les machines. Donc il y a les deux mondes. Et dans Métropolis, il y avait cette idée, cette société ne peut pas fonctionner comme ça parce que les oppositions sont trop fortes. Mais au lieu de passer par une révolution de type lutte des classes, le principe du marxisme des années 20 qui était très très en vogue à ce moment-là, dans Métropolis, il y a une troisième voie qui est proposée, qui vient alors là de principes ésotériques assez anciens, qui est d'un médiateur. Un médiateur qui a à la fois une fonction messianique et une fonction réparatrice. C'est le fils du maître de Métropolis, qui est dans le Métropolis appelé le médiateur, et qui va réconcilier en faisant un lien par le cœur, la voix du cœur, entre le monde du haut, le monde du bas. Et ça se termine par une sorte de trêve, de paix armée, de réconciliation. La structure n'est pas vraiment renversée. Et de même dans Matrix, ce ne sont pas les humains qui reprennent le pouvoir au détriment des machines ou de la Matrice. C'est une sorte de paix armée dans laquelle tout le monde va devoir apprendre à coexister. Et celui qui fait le lien, c'est Neo, justement, qui prend ce rôle de médiateur, rédempteur, réconciliateur, qui a une vision un peu christique, mais dans le sens ésotérique du terme, et pas du tout dans le sens religieux.
Mais le médiateur, Erwin Desbois, c'est aussi l'amour. Et alors c'est la dimension presque sentimentaliste qu'il y a chez les Wachowski. Vous le notez dans votre livre, leur série télévisée pour Netflix, Sense8, finit là-dessus, Amor, Vincit, Omnia, l'amour triomphe de tout, ce qui est une voie toujours un peu compliquée à mettre en scène dans un film d'action, pour le coup.
Bah, d'ailleurs, la fin de Matrix 4 fait une prise de judo à ceux qui critiquent le sentimentalisme, puisque c'est le méchant qui dit les gens sont pas prêts à ce genre de sentimentalisme. Donc, les Wachowski sont totalement conscientes d'aller dans ces territoires un peu guimauve, voilà, qui sont affichés même dès le générique des épisodes de Sense8, où c'est un kaléidoscope d'images, et une des images, c'est la bonté. C'est quelqu'un qui tient une pancarte, la bonté est sexy. Donc voilà, c'est un programme, quoi. On n'est même plus dans le sous-texte. Et effectivement, c'est présent dès Matrix, où voilà, on parlait de la voix du cœur pour Metropolis, c'est exactement ça, c'est même dit à un moment textuellement, je crois que c'est dans le 2, où quelqu'un dit à Neo, le met sur le chemin de la paix en lui disant la seule solution, de toute façon, c'est ensemble. On n'arrivera jamais soit à avoir les humains qui gagnent, soit les machines, il faut cohabiter, il faut coexister. Et dès le 1, c'est présent, même si on a l'impression que le 1 essaye de régler les choses beaucoup par la violence et par les fusils et les fusillades, mais au final, ce qui permet à Neo de l'emporter, c'est quand Trinity lui dit, dans une manière qui est déjà totalement lyrique et qui quitte déjà tout réalisme, lui dit « tu ne peux pas mourir parce que je t'aime ». Et c'est ça qui le ressuscite littéralement. On a déjà une résurrection dès le 1. Donc effectivement, il y a des bandes, on parlait de bandes tout à l'heure. C'est pareil, c'est parce qu'elles s'aiment à la folie et qu'elles ne se quitteront jamais que les deux héroïnes vont réussir à gagner. Donc il y a toujours eu cette préscience presque chez les Wachowski que la guerre, c'est l'arme des autres, de nos ennemis, et c'est pas en utilisant les armes des ennemis qu'on va réussir à s'en sortir. On va avoir que des victoires temporaires, mais au final, bah, la guerre, elle reprend toujours. D'ailleurs, Matrix 4 parle de ça aussi, du fait que, mince, les méchants sont toujours là. Et donc, il faut retourner au combat. Donc, la seule solution, bah, c'est la rupture totale. C'est la rupture totale par rapport à la violence. Bah, c'est l'amour, même si ça peut paraître sentimentaliste et gnangnan, mais elle...
Et utopique. Parce que les Wachowski travaillent énormément sur sur ce que c'est qu'une utopie.
Elles sont conscientes.
Des utopies cinématographiques, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, voilà où il faut aller, et comme à chaque film qu'elles réalisent sont presque des prototypes, on peut dire qu'elles font aussi une sorte d'utopie cinématographique.
Alors l'amour, très bien, mais la violence, parlons-en encore un peu.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Monsieur Anderson.
Vite, Neo, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il commence à trouver la foi.
Le vôtre aussi.
Plaisir à vous voir mourir, Monsieur Anderson.
Voilà, ça se tire et ça se tape dessus. Scène iconique de Matrix encore, qui après celle où Neo s'est penché en arrière pour éviter les balles qu'un agent lui tire dessus, voit le dit Neo et l'agent Smith, qui persiste à l'appeler de son dead name de Monsieur Anderson, se faire face comme suspendus dans les airs après avoir couru l'un vers l'autre en déchargeant leur calibre. C'est un effet qui frappera d'emblée ses premiers spectateurs, le bullet Time, une invention française d'ailleurs, expérimentée par Michel Gondry dans ses clips et dans ses pubs, mais popularisée par les Wachowski. Qui de vous deux saurait en décrire le principe et le fonctionnement, surtout, et le tour de force de l'avoir réalisé dans un cinéma pré-numérique, Laurent Aquenin?
Le bullet time, c'est un effet de ralenti destiné à montrer la vitesse. Pour le résumer, c'est ça. Ça permet de décomposer l'image, de faire un énorme ralenti et de montrer, par exemple, une balle qui est tirée, de voir la balle, donc se traverser l'image au ralenti et de montrer le personnage ou un protagoniste ou plusieurs se déplacer au ralenti pour éviter cette balle qui, dans une action qui, en fait, va à une vitesse fulgurante. Voilà. C'est quelque chose qui est magnifiquement cinématographique, et finalement ça rejoint ce que les théories de Jean Epstein à l'époque du muet, quand il disait que dans son ouvrage Le cinéma du diable, que le cinéma permettait justement de travailler la nature même du réel. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'effet bullet time.
Et c'est combiné, Rouen Desbois, avec un autre effet, alors qui lui vient directement du cinéma de Hong Kong, ce qu'on appelle le wire fu, c'est-à-dire du kung fu, mais avec des câbles wire.
C'est ça, avec des câbles, pour amplifier en fait l'impression que vont laisser les mouvements des acteurs et des cascadeurs sur le spectateur. Voilà, quand ils sautent, au lieu de faire un saut normal, ils vont faire un saut de 3 mètres parce qu'ils sont portés par un câble, voilà, comme au début du film, quand ils sautent d'un toit à l'autre. Et donc le wire fu, effectivement, c'est une espèce d'exagération lyrique du cinéma de Hong Kong dans les années 80. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont repris un des chorégraphes majeurs du wire fu, qui est Yen Wuping, pour faire les chorégraphies de Matrix. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des vrais coups et de se blesser vraiment. Il me semble de souvenir que quasiment tous les acteurs de Matrix se sont blessés à un moment ou à un autre, soit pendant la préparation, soit pendant le tournage. Donc, c'est pas pour tricher, c'est pas pour mentir, c'est juste pour amplifier à l'écran ce que font les acteurs. Et finalement, le bullet time, c'est la même idée. Voilà, c'est comment est-ce que je vais utiliser les effets spéciaux pour faire ressentir par l'image ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans la physique de ce monde. Le bullet time, voilà, ça va revenir à dissocier la perception que le spectateur a de l'action et que les acteurs à l'intérieur en ont. Donc, on va accélérer d'un côté, ralentir de l'autre. Ça permet d'exprimer, voilà, quelque chose de supérieur, voilà, une exagération de la force, de la puissance des personnages mais de la faire ressentir viscéralement, voilà, pas juste par le dialogue ou par quelque chose de plus simple. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de viscéral, avec ces effets qui sont extrêmement pratiques.
Alors, il y a une logique, effectivement, parce qu'il y a quand même de la logique dans Matrix, qui est de représenter un monde où les lois de la physique ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Ce qui est très intéressant, Laurent Aquenin, c'est que ces images seront tellement fortes que tout le monde va les utiliser par la suite dans le cinéma d'action, parce que ça change complètement la perception du temps et de l'espace. Mais alors là, dans un monde qui est censé être réel, quoique, et notamment dans le péplum, dans le néo-péplum qui ressurgit à ce moment-là, Laurent Aquenin.
C'est même plus complexe que cela. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au moment où les effets spéciaux numériques arrivent en force. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que Matrix arrive à un moment donné où le cinéma fait une bascule pour la reconstitution des décors. Matrix, c'est en même temps que Gladiator, pratiquement. Gladiator, c'était le premier post-péplum ou néo-péplum, comme on dit maintenant, c'est-à-dire où il n'y avait plus de reconstitution en dur, mais entièrement en effets spéciaux d'ordinateur en numérique. Ça aboutit d'ailleurs à une nouvelle esthétique. Tous ces tons verts, glacés, les images froides qui ont remplacé les oranges et les rouges du Technicolor, c'est parce que c'est dû aux effets spéciaux, aux incrustations numériques, donc ça a changé même l'esthétique du genre et des genres. Donc ça, c'est tout à fait étonnant, parce que le péplum qui renaît au même temps que ce genre de film, les films comme Matrix, j'ai toujours pensé que la science-fiction et le péplum, c'était deux genres qui étaient extrêmement proches. Parce que ça se passe dans des univers autres, complètement réinventés, complètement réimaginés. Et Gladiator, il y a quelque chose qui m'avait fasciné, c'est que dans la séquence clé de Gladiator, c'est le moment, la séquence de bataille dans le Colisée. Là où ensuite l'Espagnol va dire sa fameuse phrase devant l'empereur. Bon, la scène de combat est supposée être une reconstitution pour le public romain, donc du Colisée, d'une bataille ancienne, la bataille de Zama, dans laquelle les Romains ont vaincu les Carthaginois. Sauf que dans la bataille, comme c'est les gladiateurs qui gagnent, ce coup-ci ce sont les Carthaginois qui gagne. Et Commode dit à son maître de cérémonie « Mes souvenirs d'histoire sont un peu flous, mais c'est pas nous qui avions gagné à la bataille de Zama. » Et ce qui est fascinant, c'est que cette histoire de Zama qui est gagnée par les Carthaginois, c'est le sujet d'une nouvelle de science-fiction très connue, dans La Patrouille du Temps, dans lequel un univers parallèle est créé parce que quelqu'un a réussi à remonter dans le temps et à changer le destin de la bataille de Zama. Et c'est d'un auteur qui s'appelait Anderson. Poul Anderson, cette fois-ci. Alors bien sûr, là je fais des interprétations libres, mais Matrix invite à ce genre de circuit sinueux. N'empêche que Gladiator et Matrix, ça a été fait en même temps. Ce sont deux films contemporains. Et l'un parle avec l'autre, c'est évident.
Alors ce qui est contemporain aussi de la sortie de Matrix, c'est un mois après la sortie du film, une fusillade dans un lycée aux États-Unis, le lycée de Columbine, avec deux jeunes tueurs vêtus d'imperméables noirs. Et ça n'échappera pas à la critique de l'époque qui suspecte toujours les films de provoquer la violence. Alors on va pas se lancer dans ce débat, mais est-ce que vous avez connaissance, Erwan Desbois, que les sœurs Wachowski aient pu être ébranlées par ce parallèle qui a été fait entre Matrix et la tuerie de Columbine?
Alors le savoir exactement, non, c'est pas, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de preuves ou de citations, mais comme ce que je disais tout à l'heure, voilà, l'évolution de leur cinéma vers quelque chose de plus limpide, au message plus explicite, et qui va de plus en plus vers l'amour plutôt que vers le recours à la violence. D'ailleurs, dans Matrix 4, il y a les scènes d'action, on voit les personnages principaux qui se contentent de fuir simplement, qui ne cherchent pas à vaincre leurs ennemis, font penser qu'il y a clairement eu quelque chose qui a dû les marquer dans la mauvaise utilisation de Matrix. Pareil, tout à l'heure, on parlait des groupes Red Pill et autres, qui, je pense que ça les a touchés parce que c'est clairement le contraire de ce qu'elles voulaient raconter. Et c'est vrai qu'à revoir Matrix, la seule scène qui fait un peu tiquer maintenant, c'est la fameuse scène où, pour aller sauver Morpheus, Neo et Trinity demandent à avoir des flingues, des tas de flingues, et puis on en arrive cette espèce d'hangar, là, couvert de flingues à ne plus savoir qu'en faire, pour s'en sortir par la violence. Et c'est vrai que c'est la seule scène qui semble un peu hors du coup. Et d'ailleurs, ce genre du recours à la violence comme une solution est totalement effacé de leur cinéma ensuite.
Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que cette scène est presque parodique et que c'est encore dans un monde virtuel. L'histoire de la fusillade, c'est toujours cette confusion qu'il y a. Ce n'est pas le cinéma qui provoque. Quand quelqu'un confond le cinéma, la fiction avec le réel, c'est justement cette personne qui a un problème a priori. Et ce n'est pas le cinéma qui est le responsable, ce n'est que le révélateur de ce problème. Et quelqu'un qui ne comprend pas la différence entre réel et fiction, c'est cette personne qui a un problème a priori. Ce n'est pas la fiction qui crée la confusion.
Wake Up, créé en 1992 dans leur premier album et dans le générique de fin de Matrix, Rage Against the Machine. Merci Laurent Aknin et Erwan Desbois. Matrix de Wachowski, comme toute la tétralogie, est bien entendu disponible en DVD et Blu-ray chez Warner Home Video. Pour en savoir plus, Lily et Lana Wachowski, La Grande Émancipation, votre essai, Erwan Desbois, est publié par Playlist Society. Laurent Aknin, Mythe et idéologie du cinéma américain, c'est chez Vendémiaire. Et ésotérisme et cinéma. C'est aux diffusions rosicruciennes, naturellement. Et puis, on recommande aussi Matrix, machine philosophique, livre collectif et passionnant aux éditions Ellipse. À la prise de son aujourd'hui, Bruno Mourlan. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecoultre. What you reap is what you sow!